mais concernant le gouvernement, un comité consultatif gouvernemental. Voilà ce que veut dire GAC. En tant qu'ALAC, vous existez en tant que groupe, en tant qu'association, hein, et qui vous réunit au sein d'ICANN, mais vous pouvez exister aussi à l'extérieur d'ICANN, non? Alors, les ALS maintenant, est-ce que vous pensez que vous pourriez exister en tant que groupe? Voyons, ceux qui pensent que vous ne pourriez pas exister en tant que groupe. Bien, donc, je vois que le GAC, c'est une question que le GAC discute souvent. Est-ce que le GAC, en tant que comité consultatif, vous êtes ici pour conseiller ICANN? C'est votre position, c'est votre rôle. Certains d'entre nous, hein, viennent ici, d'autres ont leur voyage qui est payé, mais tout le monde appartient à ce comité consultatif qui est là pour conseiller ICANN. Et donc, d'une certaine façon, le plus important est donc dans les AC de ce comité de soutien, hein, de l'organisation. Donc, les AC vont donner des conseils au directoire de l'ICANN, à l'AC, et le GAC, etc., donne des conseils au directoire d'ICANN. C'est très important de se rendre compte parce que lorsqu'on parle entre nous, hein, il est important de comprendre que notre travail n'est pas interne. Notre travail est de conseiller ICANN. Hein? C'est notre objectif que nous partageons. Hein? Nous partageons cet objectif de rendre le monde plus sûr, Internet plus sûr, mais surtout de conseiller le directoire d'ICANN. Hein? Et donc, les discussions qui ont lieu au sein du GAC, hein? Hein, c'est ça. Et nous devons savoir ce que nous faisons. Hein? Nous devons donc mettre de côté nos discussions et nos conflits, hein, et nous limiter à cet objectif. Alors, le GAC, le rôle clé du GAC est de donner des conseils à ICANN sur les politiques publiques, notamment lorsqu'il y a une activité entre les activités d'ICANN, les politiques et les lois nationales ou les accords nationaux. Hein. C'est très important de comprendre le rôle du GAC. Tout le monde dans cette salle, hein, et qui n'a pas un représentant de son pays au GAC, hein, je parle de certains pays en particulier, je voudrais vous encourager à participer au travail du GAC, que ce soit à distance, en participant aux réunions. Hein, essayez d'être disponible et de venir participer aux discussions du GAC. Hein. Et la même chose pour la LAC. Ce sont des discussions qui sont de plus en plus conflictuelles concernant l'Internet. Hein. La prochaine réunion de la WCIT aura lieu l'année prochaine et c'est très important pour les règlements des gouvernements. Hein. Donc, les décisions d'ALAC et du GAC, hein, leurs décisions sont importantes et vont avoir un impact sur les personnes qui participent, qui appartiennent au monde d'Internet du point de vue de l'IT, du point de vue gouvernemental. Point de vue en général des techniques utilisateurs de tout le monde, hein, qui donc appartient à l'environnement d'Internet. En ce qui concerne le GAC, que fait le GAC et quel est son rôle en termes de participation à la LAC? Alors, nous sommes donc un comité consultatif. Le GAC donc est un comité consultatif qui fournit des conseils. Alors, est-ce que le ALAC aussi fournit des conseils écrits? Est-ce que le directoire accepte vos conseils, reçoit vos conseils, les accepte? Oui? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Oui, Carlton. Oui, c'est ce que nous faisons à At-Large, dans le comité d'At-Large. Oui, nous fournissons nos conseils et nous pouvons fournir des conseils au directoire. En général, le directoire ne doit pas obligatoirement accepter nos directoires. Donc, il peut dire merci beaucoup, mais peu importe. Je ne sais pas très bien si on peut faire une différence en termes du GAC. Je sais que si le GAC va donner des conseils par écrit et que le directoire décide de rejeter ce conseil, le directoire doit dire, expliquer pourquoi, justifier cette réaction. Si le GAC n'est pas d'accord, s'il n'y a pas de consensus atteint concernant ce qui s'est passé, à ce moment-là, il va y avoir un processus, hein, et pour parvenir à un consensus. Voilà. Est-ce que ça fonctionne comme ça pour la LAC? Non. Carlton Samuel. Non. Et tous les comités consultatifs sont les mêmes, mais ils ne sont pas. Ils ne sont pas obligés de nous répondre. Hein. C'est seulement une question de bonne volonté de leur part, hein, et même pour nous dire qu'ils ont reçu notre conseil. Bien. Donc, je vais maintenant. Je pense que c'est un point important, hein, au niveau du GAC. Hein, pas moi, hein, mais au niveau du GAC, au niveau de l'ALAC. Je pense que vous devez commencer à travailler ensemble, hein, de manière plus étroite que ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Je pense que on peut remonter un petit peu dans le temps. Je vais vous raconter un petit peu. J'ai participé au GAC et je me souviens que le GAC et l'ALAC travailler ensemble au niveau du programme de soutien pour le candidat, et ça fait un effet important sur le programme parce que ce programme est devenu plus important pour le directoire. Donc les déclarations conjointes du GAC et de l'ALAC, hein, étaient importantes. Donc la première véritable tentative pour que le directoire écoute ce que nous voulions dire, hein, pour les pays en voie de développement, surtout, je dirais que ça a été très important pour les pays en voie de développement, le fait de savoir que nous sommes représentés au GAC et que nous sommes plus nombreux, hein, au niveau des pays, les représentants des pays en voie de développement sont plus nombreux que les autres. Je ne veux pas parler seulement en mon nom, mais il semblerait que la voix du monde en développement doit se faire entendre davantage. On ne l'entend pas suffisamment. Des fois, elle est pas assez forte. Donc, je voudrais encourager les pays en voie de développement pour parler plus fort, de faire entendre davantage leur voix. Et j'encourage les gouvernements qui participent, les représentants de gouvernement qui participent au GAC, de participer davantage aussi. Parce que tout ce qui se passe dans l'Internet affecte les économies en voie de développement, qu'elles le sachent ou pas et qu'elles le veuillent ou pas. Et ces événements qui affectent nos économies, hein, ne seront connus de nos gouvernements, de nos pays, que si nous les diffusons. Donc, ALAC doit jouer un rôle solide ici, hein, pour, quand vous rentrez chez vous, vous rejoindre, vous travailler avec vos communautés, vos gouvernements, les représentants auprès du GAC, s'ils existent, pour vous assurer que, hein, et les problèmes sont connus, hein. S'il y a des événements, des réunions importantes auxquelles il faut travailler auprès des ministres, auprès de vos amis, des réunions en général auxquelles vous participez, parlez-en, hein. Faites participer ces gens, les ministres vont vous écouter. Les ministres en général ont leur propre opinion, hein, ils écoutent les technocrates, donc faites-les participer aux réunions, hein, réunissez-les. Hein, c'est important. Hein, c'est comme ça que le GAC et ALAC travaillent à l'extérieur d'ICANN. Et je pense que c'est important de savoir cela, de le comprendre. Hein. Parce que, OK, on se réunit 3 fois par an aux réunions de ICANN, mais en plus, hein, ALAC se réunit de son côté régulièrement à l'extérieur des réunions d'ICANN, mais le GAC, ce n'est pas le cas pour le GAC. Hein. Donc, ce serait très important pour vous de vous assurer que vous allez à créer une relation, un lien entre le GAC et la LAC hein, à l'extérieur d'ICANN. Je pense que c'est très important de créer ce lien parce que lorsque vous viendrez lors de la prochaine réunion, vous aurez une position conjointe à présenter sans que cette position soit documentée officiellement. Mais du point de vue des pays en voie de développement, l'opinion du GAC et de la LAC sera la même hein, et c'est très important de vous soutenir mutuellement. Est-ce que vous avez des questions? J'aimerais que ce soit un petit peu plus interactif. Est-ce que si vous voulez, vous pouvez apporter quelque chose ici. J'ai mes écouteurs, je peux écouter la traduction. Pas de contribution? Ce sont les pays en voie de développement dans la salle de réunion du GAC, donc je vois. Hein. Bon, l'Australie, l'Europe, l'Union européenne, l'Italie. Eux, ils parlent tout le temps, ils prennent la parole tout le temps. L'Allemagne, ils prennent la parole tout le temps. Les États-Unis aussi. Peut-être le Brésil de temps en temps. Hein, il vous faut parler, il vous faut prendre la parole. Hein. Salah veut parler. Elle est au fond, elle n'appartient pas à LAC, mais voilà, ce que je veux dire ici, c'est que voilà ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe dans les réunions du GAC, exactement. Et un silence dans la salle. Hein, et dans le cas du GAC, il y aura toujours un autre acteur qui va remplir ce silence. Si vous parlez, hein, je n'ai pas participé aux réunions du comité de la LAC, hein, mais si dans le GAC, vous ne prenez pas la parole, hein, il faut, si vous prenez la parole, il faut le faire avec passion. Vous avez de la chance, vous avez une position, vous avez un gouvernement derrière vous. Vous pouvez dire ce que vous voulez dire. Et le GAC, hein, dans le GAC, vous ne devez pas vous taire, vous devez exprimer votre opinion. Dans le GAC, les gens disent ce qu'ils veulent. Le gouvernement les soutient parce que les personnes du GAC savent ce qu'elles font. Donc, les gouvernements les soutiennent. Et c'est là que vous avez vraiment l'occasion de dire ce que vous voulez, ce que vous pensez. Et de nouveau, si on ne tient pas compte de vos conseils, officiellement ou sérieusement, je vous encouragerai à retourner au GAC et insister. C'est très important pour les regroupements que vous représentez de parler entre eux. Les AC doivent parler entre elles plus souvent et surtout au niveau du GAC et de la LAC, je pense qu'il faut qu'il y ait une relation. Et la raison pour laquelle je dis cela, c'est que le GAC et la LAC représentent les mêmes personnes. Donc, hein, je veux que ce soit important hein, que vous le compreniez. Nous représentons nos citoyens, nos utilisateurs de nos pays, non? Les secteurs commerciaux de nos pays, la communauté des utilisateurs de nos pays, hein, bien sûr. Et ALAC représente les utilisateurs aussi et représente l'intérêt des gens. Hein. Il me semble que c'est très important que le GAC et que la LAC travaillent ensemble, plus souvent ensemble même. Je pense que c'est important. Je pense que la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, cette section de la LAC, et cette section du GAC, de l'Amérique latine et des Caraïbes, devraient se rejoindre, se réunir plus souvent et partager plus de choses. Hein? Et comme ça, si ce type de réunion a lieu plus souvent, hein, vous allez participer à ces réunions. On va parler la même langue. Hein. La discussion va être la même. Nos opinions seront les mêmes. Hein. Les acteurs sont les mêmes. Et finalement, comme ça, on peut se connaître. Dans la région des Caraïbes, il n'y a pas de position sur ces choses-là. Je le sais. Je ne sais pas ce qui se passe en Amérique latine, mais je voudrais vous encourager hein, à faire entendre la voix de l'Amérique latine et des Caraïbes. Hein. Au GAC davantage. Hein. C'est un défi parce que la voix de l'Amérique latine au GAC est assez solide lorsqu'ils prennent la parole. Le Brésil, l'Argentine. Des fois, on entend aussi d'autres pays comme par exemple l'Uruguay. Donc, le Brésil, l'Argentine et l'Uruguay sont des personnes qui prennent la parole aux réunions du GAC. Et les Caraïbes, c'est moi. Et la Jamaïque, on ne prend pas vraiment beaucoup la parole. Lorsque l'Amérique latine parle, on aimerait bien que l'Amérique latine parle au nom des Caraïbes aussi. Ce serait bien pour nous tous, hein, qu'il y ait donc davantage de liens entre nous, de consensus. Hein. Et de nouveau, je parle de ma propre expérience ici. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que ces questions dont vous me bombardez? Tracy, c'est Sergio Salina qui prend la parole. Je t'écoutais. Tu parles du GAC, tu parles des membres du GAC et tu faisais une différence avec les États et les gouvernements. Ce qui me paraît tout à fait contradictoire parce que ta voix dans le GAC est la voix de Trinité et Tobago, non? Le pays que tu représentes et le gouvernement n'a pas d'autre possibilité. C'est ta voix. Et donc, ça, d'un côté, peut-être que j'ai pas bien compris, mais bon. Et que tu peux m'expliquer, et cela est un petit peu mieux, parce que j'ai entendu d'autres membres du GAC qui disaient cela aussi, et d'une certaine façon, ça a attiré mon attention, Comment le GAC fonctionne, voilà ma question, puisque si vous n'êtes pas d'accord avec vos gouvernements, alors, j'ai pas bien compris ce point-là. Ensuite, je voudrais te dire que je suis d'accord avec toi. Il faut qu'il y ait davantage de contacts entre, de liens entre le gouvernement et la société civile. Les gouvernements représentent les gens et les organisations qui sont ici représentent les usagers. Quand je parle des usagers, je parle des gens en général. Tu n'as pas eu la traduction? Est-ce que tu as eu la traduction? Oui? Donc, je disais que les États représentent tous les niveaux d'un pays, les entreprises, les usagers, les académies, les universités, etc. Et nous représentons les usagers d'Internet dans notre pays. Donc, je reviendrai sur la question de base. Tu fais une différence entre les représentants du GAC et l'État, ou bien vous représentez l'État? C'est tout. C'est une très bonne question. Oui. Ce que je voulais vous dire, c'est que pour une question de temps par rapport à l'autre orateur, la seule question qu'on va pouvoir te poser, Tracy. Ce que je vais demander, c'est que seulement Sergio prenne la parole. Les autres questions, vous pourrez les poser après. Merci. Bien. Sergio, je vais donc revenir un petit peu en arrière. Je représente mon opinion personnelle, mon expérience dans le GAC. Donc, je pense que c'est important de le souligner. Oui, je réponds à votre question. Oui, je pense que les gens viennent au GAC avec leur expérience personnelle, comme moi. Et certains d'entre eux vont exposer leur vision personnelle parce que vous représentez votre pays. Ça devient donc la position de votre pays, que ce le soit ou pas. Et comme je le disais tout à l'heure, il faut être très prudent dans ce sens. Dans la plupart des cas, et surtout dans le cas de l'Internet et dans la technologie de l'information en général, je dirais que la technocrate, les personnes officielles qui représentent les gouvernements représentent la voix du gouvernement, parlent au nom du gouvernement parce que leur vision. Et c'est ça qui compte. C'est leur vision qui compte. Est-ce que c'est clair? C'est eux qui écrivent les politiques. Ils sont ceux qui vont informer les ministères. Ils peuvent dire s'ils veulent soutenir ou pas une position. Ça peut être leur position personnelle. C'est possible, mais c'est leur position. Dans certains cas, les ministres, les secrétaires peuvent être d'accord avec cette position ou ne pas avoir d'opinion par rapport à cette position. Donc, je pense qu'on voit ça souvent aux Nations Unies. Parfois, l'ambassadeur, on admet que l'ambassadeur représente le pays. Il va prendre une position politique X. Et le GAC n'est pas aussi officiel. Et lorsqu'une personne parle, lorsqu'on lui pose une question et qu'il répond, vous allez constater que très souvent, cette réponse devient la position du gouvernement sur ce point-là. Ce que je veux dire ici, c'est que ça devient la même chose. Dans mon cas, je ne fais pas cela. Je ne parle pas à moins qu'il y ait vraiment une position fixe. Hein? Sinon, je demande au responsable dont je dépends, je la pose la question, hein, parce que notre position générale est neutre. Nous essayons de converser, nous essayons de conserver une opinion neutre. Hein. Il y a des pays qui sont pour ou contre, hein, mais si vous allez à ces réunions, vous voyez que vous voyez les discussions qui sont en cours dans ces réunions, hein, avec le directoire, vous allez voir qu'il y a des personnes qui sont pour et des personnes qui sont contre. Hein. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous allez voir vous-même les personnes qui se manifestent pour ou contre dans les discussions du GAC. Et de nouveau, je dirais que c'est très important, hein, si vous voulez que les membres du GAC parlent la même langue que vous parlez vous-même, hein, parlez avec eux. Pas seulement ici, hein, lorsque vous rentrez chez vous aussi, allez voir ces représentants dans leur bureau, essayez d'avoir des réunions avec eux, de parler avec eux, hein, parce que comme ça, vous allez représenter le pays au nom et leur dire, je représente le pays dans le lac Ralo, dans le... Hein, et vous donnez-leur votre opinion. Ils seront très surpris, ces gens, s'ils se rendent compte que... Parce que beaucoup d'entre eux, hein, sont neutres. Ils ont une position neutre. Ils viennent ici, hein, et ils peuvent prendre la parole ou pas. Donc, votre opinion doit être, hein, peut très facilement devenir leur opinion. Hein. C'est une stratégie facile à employer. Parlez avec vos représentants. Hein. Vous avez peut-être des arguments. Dites-leur que vous voulez parvenir à un certain consensus. Hein. Et si l'on essaye d'organiser ces réunions que vous voulez, c'est très important d'avoir un consensus, une création de consensus au niveau de l'Lac Ralo et d'être large à l'extérieur d'ICANN. Donc, les discussions dans cette salle, dans une autre salle, pourront être comme ça les mêmes, similaires. Hein? Voilà. C'est tout. Bien, merci beaucoup, Tracy. Bien. Notre prochain invité, nous le remercions pour sa présence, est Annalisa Rogers, qui est la présidente directrice générale de Point Green. Annalisa, merci pour ta présence. Bien, bonjour à tous et merci José. Et bonjour à tous les membres de l'Lac Ralo. Merci de m'avoir invité à parler ici. Je vous remercie. Je suis la fondatrice de Point Green, qui est un nouveau candidat de TLD. Nous essayons d'obtenir que Point Green devienne quelque chose qui permette la soutenabilité dans le domaine de l'écologie. Je suis la vice-présidente de la Société Internet de San Francisco Bay et de la Silicon Valley et je suis ma propre représentante. Hein. Avant de commencer, je voulais vous dire que lorsque j'ai commencé à travailler avec ICANN, hein, cette grande organisation multipartie prenante, j'ai été reçue comme étant bienvenue et j'ai appris que je pouvais parler, prendre le micro si j'avais quelque chose à dire. Et que cela serait traduit dans différentes langues, enregistré, retranscrit, donc il n'y a rien à craindre. Pour ceux d'entre vous qui considèrent qu'ils veulent participer, c'est une façon de le faire. Et c'est ça qui est bien de ce modèle multipartie prenante, hein, et multipartite, pardon. Tout le monde peut participer. Et l'opinion de tout le monde compte. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, agrandir un petit peu la diapositive? Merci. Une chose que je voulais dire, hein, d'abord avant de commencer, je ne parle pas d'une économie du monde entier, je parle du secteur privé ici, représenté auprès d'ICANN, et donc ici, je pense qu'on peut passer à la diapo suivante, oui. Donc ici, ICANN, le secteur privé est une corporation multinationale Et ce sont des compagnies de l'industrie d'Internet, des petites entreprises, des ONG, des compagnies privées qui fonctionnent comme des fondations, etc. Les tierces parties sont aussi une partie importante dans le modèle d'ICANN et il faut maintenir une transparence et une neutralité au sein d'ICANN. Et ICANN donc engage des tierces parties du secteur privé dans ce sens. Le volontariat est une partie importante de ICANN. On offre son temps, on donne son temps. Les individus qui sont soutenus par le secteur privé offrent leur temps, les services qui sont fournis par ICANN pour les études d'impact économique. Et tout cela est fourni par des compagnies qui appartiennent au secteur privé. Les expertises viennent d'ICANN, du secteur privé. Et comme Internet accompagne tous les secteurs commerciaux et différentes activités de la population à travers donc nos membres, nous tirons profit de l'expertise de tous les secteurs de l'économie globale. Le sponsorat est aussi une partie importante de ce que nous avons du secteur privé en tant que contribution et de la façon dont de l'endroit d'où proviennent les dollars, les fonds hein, du secteur privé. Donc le sponsorat offre donc de l'aide pour les réunions et nous sommes souvent au niveau du secteur privé. Et les revenus. La façon dont ces revenus, ces bénéfices entrent dans ICANN. Prochaine diapo, voilà. C'est une diapo intéressante. Tout le monde doit connaître, en tout cas les nouveaux arrivants ont déjà vu cette structure du modèle multipartite de ICANN. Je voudrais ajouter quelque chose ici, quelque chose d'intéressant, une information intéressante. ICANN appartient au secteur privé. Et c'est une organisation, une corporation privée de Californie qui n'est pas sous le contrôle d'un gouvernement, qui n'est sous le contrôle d'aucun gouvernement. C'est pour ça que nous avons tous ici notre opinion à dire. Et c'est très important. ICANN est aussi une organisation sans but lucratif. Et il est important de savoir que les gouvernements du monde entier peuvent donner leurs conseils, ils le font à travers le GAC, dont on vient d'entendre parler dans le détail, et ils le font avec le reste des autres parties prenantes. Donc, pour en revenir à l'endroit où se situe le secteur privé, l'influence du secteur privé sur ce tableau va venir à travers le GNSO, qui est la case verte, mais il y a aussi des aspects concernant le secteur privé dans d'autres domaines. Beaucoup de volontaires qui travaillent dans ICANN, dans ce modèle, viennent du secteur privé, de l'industrie en général, mais ils ont des connaissances, une expertise qu'ils nous apportent. Prochaine diapo. Bien, alors pourquoi est-ce que la participation est-elle importante? C'est important pour les parties prenantes, pour le secteur privé et pour les finances, pour qu'elles attiennent les consommateurs. On parlait de compagnies, de secteurs privés. Il faut exprimer ce que l'on veut pour Internet. La communication interne, externe, tout le monde utilise Internet. Et donc, cela appartient à la possibilité de leur business pour que ces business deviennent vraiment une réussite. Donc, ils peuvent être affectés. Et donc, participer à ICANN, c'est une façon de s'assurer d'où viennent les politiques et de quelle façon ces politiques peuvent affecter leur business. Et puis, soutenir le progrès aussi. La contribution, l'engagement, les perspectives offertes ici à ICANN pour tout le monde, y compris pour le secteur privé, aident tout le monde hein, à suivre le développement d'Internet. Alors ici, vous voyez certains exemples spécifiques des choses que nous allons pouvoir entendre aux réunions ici et qui peuvent intéresser les membres du secteur privé. Je vais les lire. Donc, secteur privé, les accords d'accréditation des bureaux d'enregistrement, la confiance des consommateurs, les données WHOIS et un problème dont on parle pas mal, hein, qui vise à censurer l'Internet. L'Internet, c'est SOPA. Hein. Donc, la voix maintenant des parties prenantes, c'est quelque chose qui est très important. Le secteur privé, ses opinions, hein, c'est très important parmi les parties prenantes, les différentes parties prenantes. Les problèmes qui viennent du secteur privé, les préoccupations peuvent être présentées à ICANN, permet de partager les besoins commerciaux et de répondre à ces besoins et avec le directoire d'ICANN. Le fait d'écouter la perspective, le point de vue des autres, je pense que c'est très important. C'est ce qui se fait ici à ICANN. Donc, quel que soit le groupe de parties prenantes auquel vous appartenez, le fait d'écouter l'opinion des autres parties prenantes est très important. Et ça fait vraiment partie du modèle d'ICANN. Et les politiques qui risquent d'affecter l'Internet. Hein. On peut parler ici des politiques qui peuvent donc affecter votre business. Une chose que je voudrais aussi dire. Bien, avançons. Passons à la prochaine diapo. Et donc ici, utilisation en ligne. Ce que je veux dire ici, c'est que presque tous les business aujourd'hui utilisent l'Internet. Presque tous les secteurs commerciaux utilisent l'Internet. S'ils n'ont pas la possibilité d'avoir du travail en ligne, ils vont utiliser l'Internet de manière interne pour la communication, l'information, les démarches auprès des banques. Donc, tout le monde a besoin d'Internet dans le secteur commercial pour fonctionner. Voilà une liste ici qui vous permet de renforcer donc ce point de vue. Viabilité économique, utilité importante, interopérabilité, utilisation interne, sécurité, accès à la clientèle ou de la clientèle. Voilà, ce sont les différents secteurs dans lesquels le secteur privé a besoin de l'Internet, a besoin d'Internet qui fonctionne bien. Hein, et donc, pour ces raisons, il est important que le secteur privé soit représenté dans les réunions d'ICANN. Les progrès maintenant de soutien. Et le fait d'affecter, cela peut changer les politiques, le fait d'introduire les vrais défis concernant Internet pour vous, pour votre région, pour votre secteur commercial. Soutenir ce qui fonctionne, venir ici à ICANN permet de répéter cela, d'insister sur cela pour que tout le monde l'entende et identifier des besoins. C'est très important. Le secteur privé doit participer et il est important que quel que soit le secteur dont vous venez, le fait de participer aux réunions d'ICANN nous permet de soutenir des processus ici ensemble et de participer, de contribuer au mouvement, à l'évolution de l'Internet hein, sur lequel dont nous dépendons tous, disons. Voilà. C'était ma présentation sur le secteur privé. Maintenant, si vous avez des questions à poser, je serai ravie d'y répondre. Merci. Est-ce qu'il y a des questions pour Annalisa? Bien. Alors, ma présentation devait être parfaite. Alors, la dernière diapo. Oui, est-ce qu'il y a des questions? Oui. Il y a une question? Allez-y. Bien, merci beaucoup pour votre présentation, Annalisa. Je voudrais vous poser la question suivante. Comment le secteur privé considère-t-il l'intervention d'ICANN et le soutien que ICANN pourrait donner pour que le secteur commercial puisse se développer et... Je répète. Vous êtes prête? Bien. D'abord, je vous remercie pour votre présentation qui était très claire. Et ma question est la suivante. Comment est-ce que le secteur privé considère-t-il, du point de vue d'une compagnie comme celle que vous représentez, l'intervention de l'ICANN et le soutien que Internet peut donner aux entreprises privées pour que leur business se développe, non? Merci. C'est une bonne question. Merci pour votre question. Donc, je veux d'abord être sûre d'avoir bien compris la question. Alors, est-ce que votre question portait sur la façon dont ICANN, lorsque vous dites, vous parlez de l'intervention d'ICANN, non? Est-ce que vous faites allusion au soutien que le modèle d'ICANN peut offrir à une compagnie? Oui, comment est-ce qu'une entreprise comme celle que vous représentez, par exemple, ressent-elle l'intervention, la participation d'ICANN? Est-ce que vous avez l'impression d'être soutenu, que tout fonctionne bien, que tout va bien, ou est-ce qu'au contraire, il y a des préoccupations de votre part? Bien, merci. Oui, je pense qu'en général, nous avons une sensation d'un grand soutien qui vient du secteur privé et qui nous donne vraiment l'impression que nous pouvons venir ici aux réunions d'ICANN pour entendre les problèmes avant que les politiques soient formées et soient résolues, savoir ce qui se passe, savoir comment se développent ces politiques, avoir une voix avec les autres organisations et compagnies qui ont les mêmes besoins, les mêmes soucis que nous. Donc je pense que ça, c'est la partie la plus importante et la plus intéressante en ce qui concerne ICANN. Il est clair que pour les gouvernements et les régions où où nous travaillons, et c'est important d'avoir un contact avec les politiques et ces processus de manière descendante. Il y a des pays dans lesquels les représentants peuvent donner leur opinion. Et je pense qu'ici, dans ICANN, c'est vraiment ce qui se passe. On a vraiment la possibilité d'être plus actif et d'être plus engagé, de participer au processus. Donc, je pense que pour répondre à votre question, je crois qu'il faudrait travailler, aborder la question point par point, parce que dans un groupe de parties prenantes aussi grand, il y a des moments où les politiques avancent et évoluent et proviennent. Et nous, dans le secteur privé, on n'est pas tout à fait d'accord avec ces politiques, mais bon, c'est ça, justement, un processus multipartite, c'est ça, hein, c'est justement ça. Donc, je pense qu'à la fin, finalement, les bénéfices sont supérieurs au côté négatif. Hein. Je pense que ICANN est basé sur un consensus lorsqu'il développe ses politiques aussi, et donc souvent, c'est une question, il y a des compromis qui sont obligatoires, mais je pense que la possibilité que tout le monde puisse prendre la parole autour d'une table et discuter, c'est très, très utile, c'est très précieux, c'est très important. Bien. Une dernière chose que je voulais ajouter. Sur cette diapo, je vous montre la façon de participer. Hein, voilà, une façon de trouver donc un site Internet qui nous mène au programme. Et là, vous avez donc les réunions et vous cliquez sur les réunions et vous pouvez participer comme ça. Si vous n'êtes pas sur place à la réunion d'ICANN, vous pouvez aussi participer à distance. Donc, lorsque cette réunion dans 3 mois aura lieu en Europe, hein, si vous vous inscrivez sur au programme d'ICANN, vous pouvez aussi participer en ligne. Voilà. Et puis aussi, nous avons une adresse de Facebook. Bien, merci beaucoup, Annalisa.
Nous allons maintenant inviter alors notre prochain orateur, Sébastien Bechagamba. C'est un plaisir de t'avoir entre nous. Merci d'être venu. Sébastien est le directeur régional d'ISOC pour la région de l'Amérique latine et des Caraïbes. Merci, José. Bonjour à tous. Bonjour, Sergio. Comment ça va? Alors, je n'ai pas de présentation, en fait. Je voulais faire une discussion interactive. C'est un plaisir et un orgueil aussi d'être ici. Je voudrais vous dire que je suis à votre disposition. Comme José a dit, j'ai une fonction spécifique, c'est ma position dans la société Internet, dans l'ISOC en ce moment. Mais en fait, je voulais partager avec vous mon expérience personnelle par rapport à ICANN en général. C'est un peu plus large que mon rôle depuis la société civile. Et je voulais dire que je suis à votre disposition pour vous aider, parce que je pense que c'est une tâche lourde depuis l'ICANN. Et je crois que je peux partager avec vous certaines des pierres que je dois porter sur mes épaules. Pour ceux qui ne me connaissent pas, J'ai représenté plusieurs acteurs à l'intérieur d'ICANN. Je suis engagée avec ICANN de manière personnelle dès le début. J'ai eu des rôles de représentation depuis le secteur privé, depuis la communauté technique et des ONG telles que l'ISOC en ce moment. Il est difficile d'aborder la participation de la société civile du point de vue de la société Internet spécifiquement, parce que nous, en tant qu'organisation, on a une interaction avec ICANN au lieu de participer à l'ICANN. Et donc, il me semble que ce serait beaucoup plus riche, en fait, de me placer depuis ma place en tant qu'individu et voir ce qu'on peut faire entre nous, ensemble. Et donc, ce que j'ai pensé lorsque je concevais cette présentation, je pensais pourquoi on doit participer à ces sujets. La différence entre Internet et les autres technologies est que l'Internet est dans une étape de maturation assez précoce. Il ne s'agit pas d'une technologie qu'on a héritée. Ce n'est pas un héritage legacy comme d'autres technologies dont on se sert habituellement. Donc, on peut recevoir une grande valeur à partir de notre représentation. On peut avoir des résultats immédiats. Je reconnais plusieurs des visages autour de moi depuis longtemps et peut-être que ceci vous arrive aussi. Et donc, à ce moment-là, il est fondamental de participer. Il me semble qu'en tant que génération, certains d'entre vous sont un peu plus vieux que moi, mais je ne suis pas non plus des générations les plus jeunes. Et en fait, on n'est pas conscient de la valeur de notre participation et du moment historique duquel nous participons. On est en train de créer l'Internet ensemble. Et peut-être on oublie ceci. On voit que l'article 5, la section B dans le manuel de procédure et le règlement, et peut-être on oublie ce qui est fondamental et révolutionnaire de notre participation en ce moment. Ce qui est fondamental est de participer. Et le fait de participer inclut des résultats immédiats. On est en train de vivre en même temps un processus historique différent et c'est un processus qui permet la participation de différents acteurs. On s'assoit ici et, bon, je m'excuse, je viens d'arriver d'autres réunions en fait et je vais partir dans deux minutes. Mais en fait, il est rare de voir des personnes qui connaissent l'histoire et la conception de ce processus et de ces systèmes et qui voit qu'il y a d'autres acteurs et que tout le monde a le même rôle et le même poids au moment de discuter. Et donc, on ne doit pas oublier ceci non plus. Alors, les portes sont ouvertes pour que vous participiez. En deuxième lieu, la porte est ouverte pour que tout le monde participe également au même niveau. Et peut-être on oublie ce moment historique et on oublie l'intensité de ce fait. Donc, je vous demande de réfléchir sur ceci. On a la possibilité... En fait, d'habitude, je parle du même exemple et on parle du web 2.0 depuis quelques années. Pour moi, ceci est une fallace. On se trouve dans le web 1.0 de ce qui serait l'Internet. Il faut le penser en termes historiques. Il y a 8 ans, on n'avait pas Facebook, par exemple. Et en réalité, on vit tout le temps une révolution. Et donc, on a l'occasion de faire partie de la création de quelque chose. C'est pas un système qu'on hérite. Si on pense que l'Internet existe parce qu'il existe, on se trompe. Il s'agit de quelque chose qu'on construit jour à jour ensemble. Et donc, notre participation au sein de ces organisations, il me semble, nous donnera une perspective différente par rapport à ce que l'on peut faire à travers nos actions. Donc, il est fondamental de comprendre notre rôle. Notre rôle est celui de créer en ce moment. Donc, ceci implique que nous devrons avoir l'esprit ouvert. On devrait être ouvert à accepter l'autre, aux engagements. On doit trouver des accords, des points intermédiaires. On doit toujours évaluer le moyen terme, le long terme, et qu'est-ce qu'on veut que l'Internet devienne demain, et pas ce que l'Internet est aujourd'hui. Et basé sur ceci, il faut participer. Et on a des occasions infinites pour participer. En ce moment, nous allons parler d'ICANN, mais en fait, on a d'autres organisations qui sont fondamentales, et beaucoup d'entre nous, ici à table, participent dans d'autres organisations aussi, et non pas seulement à l'ICANN. On a un représentant de l'IET, l'IETF, qui est Thomas, ici à table. On a des représentants de la société civile qui sont assis ici en même temps. Et à chaque fois, ils participent d'autres organismes nationaux, régionaux et internationaux. Et donc, on a des gens qui travaillent depuis la société civile avec leur gouvernement, avec leur secteur privé, ou alors qu'ils le font à niveau régional. Donc, on a plusieurs différents niveaux. En ICANN, on se réunit pour aborder une partie spécifique de ce qu'est Internet. Et donc, il me semble, et je voudrais m'excuser encore une fois de la brièveté de ma visite, mais je crois qu'il y a eu un panel intéressant par rapport aux possibilités de participation d'ICANN et des sujets qu'on est en train d'aborder. Et donc, en fait, je voudrais vous transmettre cette vision stratégique. C'est depuis où devrions-nous participer? Quelle est l'importance de notre participation? En ce sens, il est essentiel d'avoir le LACRALO. L'importance de LACRALO est essentielle et c'est là que je veux qu'on se focalise. L'opportunité de LACRALO pour générer la diffusion, le outreach, comme on l'appelle en anglais. Je pense que c'est pas parfois la meilleure traduction, la sensibilisation, etc. Au moins, pour gouvernance, on a fait la traduction, on l'a inventée. Et donc, on devrait inventer un mot pour outreach en même temps. Mais bon. En tout cas, la possibilité de outreach depuis d'autres organisations qui sont engagées dans d'autres sujets d'Internet, depuis les RALO, est fondamentale. Et au lieu d'essayer de vous expliquer, vous qui travaillez depuis de nombreuses années à l'ICANN, comment participer, je pense que le message est d'être conscient et de s'engager et de faire cette sensibilisation, de faire ceci aussi grand que possible. J'insiste, c'est un moment historique. On a besoin de la participation de tous. On a besoin de faire ce processus aussi large que possible. Il faut participer, il faut penser au long terme et on verra comment l'Internet évolue. Il me semble que ceci représente un défi pour nous en tant que communauté. Il faudra relever le défi. Il faudra faire ceci qui ne nous est donné par personne. Il s'agit de capacités que nous avons. Il ne faudra pas attendre jusqu'à ce que quelqu'un nous le fournisse. On n'a pas de papa ici qui va venir nous résoudre le problème. C'est à nous de le faire. Et tout ce qu'on va atteindre sera un résultat qui sera atteint à travers nos actions. Si ce n'est pas nous qui le faisons, personne ne va le faire à notre place. Et donc, au lieu de discuter sur si le LACRALO devrait s'évoluer sur la transition entre l'IPv4 et l'IPv6, il me semble qu'il est plus important de considérer ceci depuis ce point de vue. Ce n'est en fait qu'un petit résumé de ce que j'ai pensé lorsque j'ai commencé à travailler dans cette aventure que je partage avec vous tous. C'est une petite synthèse. Et donc, bref, c'est ça. Je voudrais plutôt parler avec vous, en discuter, pouvoir partager des expériences. Je suis un peu plus grand que plusieurs de ceux qui sont assis à table. C'est dur pour moi de dire ceci. C'est dur de l'admettre. Mais enfin, bon, c'est la réalité. Donc, je voudrais voir si je peux partager d'autres aspects que ce que je n'ai dit et qu'on ait une séance de questions et de réponses en ce moment, si vous voulez. Merci. José Arce prend la parole. Oui, Johnny, vas-y. Bien, merci, Sébastien. Je trouve fabuleuse cette synthèse que tu as fait sur l'importance de ce qu'on doit faire au sein de LACRALO. Tu as mentionné le plan stratégique, le court terme, le moyen terme, le long terme, et tu as aussi mentionné l'importance de la conception du futur et des perspectives, parce que c'est justement ces dernières journées qu'on a créé un groupe de travail qui doit concevoir un plan stratégique pour le long terme. Et donc la vision de notre perspective, ce qu'elle fait, est de concevoir un futur, rêver de l'avenir. Et en fait, commencer à le construire à partir de ce rêve. Mais le construire, c'est comme tu dis. Alors, on se trouve dans une étape de construction où on pourra créer, au moins du point de vue de LACRALO ou d'ICANN, une perspective, un plan pour travailler dans le futur. Parce que si on ne crée pas un plan stratégique qui puisse fonctionner, en fait, on parle pour rien. Et donc, je viens d'entendre dire que tu as eu un rôle au sein de l'ICANN depuis plusieurs endroits, dès le secteur privé, la société civile aussi. Et donc, pour développer ce plan stratégique avec une vision pour le futur et pour l'avenir, je voudrais profiter de cette occasion, Sébastien, pour te demander de nous aider à créer ce futur, à à penser à ce futur parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de pression par rapport à cet avenir dont on rêve au sein de l'ICANN. Et donc, j'aimerais bien que tu nous aides depuis toutes ces positions que tu as eues le long du temps. Merci pour cette question, mais en fait, ce sera un peu décevant pour toi, je pense. J'insiste d'un côté sur l'importance fondamentale de penser stratégiquement au long terme. Si tu me demandes comment je vois l'Internet d'ici à 5 ans, ma question est aucune idée. Ma réponse est aucune idée. Parce que jusqu'à présent, ça me surprend toujours. Et jusqu'à présent, je considère qu'il est impossible de pouvoir savoir ce qui va se passer. Et au-delà de savoir ce qui va se passer, on peut travailler sur ce qui devrait se passer pour pouvoir atteindre de bons résultats. Et donc, en fait, la vertu de l'Internet, depuis mon point de vue, est que ça a été un bon terrain pour l'innovation en général. Et en fait, ceci dépend des caractéristiques ouvertes d'Internet. C'est ça qu'il a encouragé. C'est le développement de politiques ouvertes par ses standards ouverts aussi. Et donc beaucoup de phénomènes qui sont participatifs, démocratiques. Et c'est cette caractéristique d'ouverture qui a fourni la scène possible pour que l'Internet se développe aussi vite qu'elle ne l'a fait et aussi pour permettre l'innovation constante. Et donc, je pense qu'on devra travailler sur des panoramas qui permettent de préserver cette innovation, cette ouverture aussi. Il n'est pas probable de pouvoir imaginer quelle sera la technologie qu'on aura demain. Et en même temps, si on se focalise sur l'analyse étroite du long terme d'une technologie spécifique, comme pour penser que l'Internet va être mobile, par exemple, en même temps, on fermerait les portes pour l'innovation. Parce qu'en fait, peut-être demain, l'Internet sera télépathique. Ce serait une idée absurde, bien sûr. Je le mène jusqu'aux extrêmes, mais c'est pour que tu comprennes. Et il me semble qu'on a travaillé sur les conditions de base. Et les conditions de base sont de maintenir cette caractéristique d'ouverture d'Internet qui encourage l'innovation. Et on a beaucoup de tensions par rapport à cette caractéristique d'ouverture d'Internet, et donc on travaille beaucoup dessus. Merci, Sébastien. Il y a des gens qui veulent poser des questions, mais on est déjà trop en retard et on doit passer la parole au prochain orateur. Merci, Sébastien, d'être venu. En tout cas, si on peut te contacter pour répondre aux questions qu'on est à répondre. Bien sûr, je serai ici l'après-midi aussi. Merci. Nous allons inviter maintenant le prochain orateur, c'est Thomas Norton. C'est un membre du directoire de l'ICANN et il est la liaison pour l'IETF. Et merci d'être venu, Thomas. Merci pour ta présentation, José. Je vais être bref, je pense, j'espère. Et j'ai parlé de ma mission comme liaison de l'IETF au sein du directoire. Depuis mon point de vue personnel, j'ai une formation technique. J'ai travaillé beaucoup au sein de l'IETF le long des années. Si vous voyez ceci, j'ai travaillé beaucoup sur l'IPv6. J'ai aussi travaillé au sein des registres régionaux, c'est le RIR. Et je suis un fanatique du modèle de multiples parties prenantes parce qu'en fait, j'aime bien la capacité de résoudre des problèmes de façon à ce que toutes les personnes qui soient intéressées ou qui reçoivent un impact de leur travail se réunissent dans un même endroit, au même niveau et qu'ils puissent résoudre le problème des différentes parties. Par exemple, pour le point de vue technique, si on développe des politiques, on doit les mettre en place au point où ce soit faisable Et peut-être parfois, ceci n'a aucun sens ou ce n'est pas possible. Et donc, l'exemple classique est, par exemple, quand on sanctionne des lois qu'on ne peut pas mettre en place, en fait. Et peut-être on a des clauses qui sont cachées et on ne s'espérait pas à ceci. Et donc, pour vous parler de la communauté technique, je vais commencer par dire que la communauté technique est un groupe très large. Il ne s'agit pas d'un seul groupe, en fait. Alors, par exemple, lorsque je pense à la communauté technique, je peux la décomposer en plusieurs parties. D'un côté, on a les opérateurs ou les fournisseurs des services. Et donc, ce sont les personnes qui font fonctionner les réseaux. Par exemple, les fournisseurs de services Internet qui peuvent unir les réseaux. Mais en fait, on a plusieurs types de fournisseurs Internet en même temps. Ceux qui connectent des villes, ce sont des grands, ce sont des connexions d'entreprises, par exemple. Et peut-être qu'ils se servent des mêmes protocoles, mais souvent leurs problèmes, ce qu'ils font, ce qui les préoccupe est différent. Donc, puis on a le logiciel pour ceux qui mettent en place. Ils mettent en place les logiciels. On a des vendeurs de logiciels. Parfois, ils produisent des applications pour la plateforme Windows ou sur l'iPhone. Et ils ont un point de vue très différent de celui des personnes qui vendent du hardware pour les ordinateurs. Et donc, lorsqu'on parle de la communauté technique, on ne peut pas dire qu'il s'agit d'un seul groupe parce qu'en fait, on a des sous-groupes individuels. Et lorsqu'on travaille sur une politique, par exemple, au sein de l'ICANN, le groupe qui recevra l'impact à partir de ces mesures peut-être sera différent d'un autre par rapport à la politique. La perspective principale que j'ai est l'IETF. C'est là où on a développé les protocoles. Et si vous voyez qui a inventé le HTTP ou d'autres protocoles, c'était l'IETF, par exemple, les DNS aussi ont été développés au sein de l'IETF très longtemps. C'est pour ceci qu'on les a élargis, qu'on leur a ajouté des éléments. On a aussi les registres régionaux. Ils travaillent sur le développement de politiques d'adresse. On a beaucoup de gens qui travaillent là. On a beaucoup de gens des RIR et des IETF et on a des opérateurs qui viennent parfois présencier les réunions de l'IETF. C'est des gens qui sont intéressés à savoir quelle sera la politique. Et même s'ils sont opérateurs eux-mêmes, ils ont leurs propres réunions. Ils sont des groupes d'opérateurs, ils maintiennent leurs propres conférences où ils se réunissent. Et on a une intersection, une simultanéité entre les différents groupes, mais on n'a pas de groupe qui représente tous ces acteurs. Donc, du point de vue de l'ICANN, la communauté technique, je dirais, n'a pas un endroit où participer. Et en fait, ce qui se passe est qu'en premier lieu, l'ICANN développe principalement des politiques. Et ce qui préoccupe l'ICANN a trait principalement à l'espace des domaines, des noms de domaines. Et donc, du point de vue technique, la communauté technique trouve sa place dans le débat de la technologie en forme de l'information. Si vous ne comprenez pas ce que la technologie fait ou ce qu'elle devrait faire pour être mise en place, il s'agit de politiques qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas censées, qui ne peuvent pas être mises en place ou alors qui ne sont pas pertinentes. Et alors, en fait, ce qui m'a intéressé toutes ces années, c'était les IDN, les noms de domaine internationalisés. Et on a travaillé beaucoup sur les solutions des IDN. On a essayé de rédiger des solutions, mais du point de vue technique, puisqu'on se sert du terme technique de façon large, on a des conflits entre les idées. On ne peut pas dire, bon, on va essayer ceci, voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'en fait, les résultats qu'on met en place parfois ne fonctionnent pas. Et puis, la communauté va être frustrée par rapport à son expérience personnelle et ils vont abandonner le projet à la fin. Et c'est la faute de l'ICANN, finalement, parce que c'est eux qui ont permis ceci, qu'ils soient responsables ou pas de ces mesures. Donc, ils ont beaucoup de pression pour bien faire les mesures qu'ils prennent. L'IETF, c'est une organisation très large. Et pour participer, il vous faut trouver un groupe de travail qui travaille sur un sujet qui vous intéresse, voir les listes principales, lire les commentaires, commencer à commenter sur les documents ou alors répondre aux chaînes qu'ils ont, aux sujets qu'ils ont. Ils ont des listes d'emails où ils discutent les politiques. Vous pouvez lire les politiques qu'ils proposent, vous pouvez faire des commentaires. Ils ont des réunions face à face en même temps dans la région. Si vous pouvez voyager, vous pouvez aller dans d'autres réunions, dans d'autres régions. C'est un peu similaire à ce que fait l'ICANN. Et pour ce qui est le travail de l'IETF, en fait, leur but est d'améliorer le fonctionnement d'Internet. Et c'est là où leurs activités se centrent. Parfois, ils ont besoin d'avoir des standards parce que les gens veulent faire quelque chose pour laquelle on n'a pas de standards. Donc, c'est eux qui développent les standards. Lorsqu'on a un problème, parfois, où on a besoin de développer les meilleures pratiques, et parfois, ce n'est pas un standard, les meilleures pratiques qu'on peut forcer les gens à adopter. Et peut-être les gens vont mettre en place ceci de façon volontaire. Alors, je vais faire une pause à ce point-là et vous demander si vous avez des questions, des commentaires. Je ne sais pas si vous voulez discuter un autre sujet ou si vous avez des questions. Oui. Antonio Medina, tu avais levé la main d'abord. Oui, vas-y, Antonio. Merci, je suis Antonio Medina pour le procès verbal. En ce moment, je voudrais savoir davantage sur les représentants de l'Amérique latine et des Caraïbes qui conforment ce groupe que vous mentionnez pour savoir si on pourra participer ou si nous représentent face à ce type de groupe. Des groupes tels que l'IETF. Je n'ai pas des chiffres directement, mais je crois que la participation de l'Amérique latine est assez mineure. Donc, je pense que les acteurs principaux viennent de l'Amérique du Nord, l'Europe et l'Asie. Alberto, si tu veux poser une question, tu as très peu de temps. Oui, vite fait. Alors, puisqu'ils créent les protocoles, est-ce qu'on a des acteurs privés, des participants privés qui interviennent pour cette création, je veux dire des entreprises du secteur privé? Oui, bien sûr. Alors, le modèle de l'IETF est complètement ouvert. Tout le monde peut participer, que ce soit le gouvernement, que ce soit un individu qui n'a aucun intérêt commercial, ou alors si c'est une entreprise qui a un intérêt commercial, tout le monde peut participer et c'est sur la base individuelle. Ce n'est pas une question de regroupement ou... En fait, c'est la méritocratie, c'est ça l'idée. Tout le monde a une voix. Et quand je dis ceci, les gens qui ont le plus d'influence au sein de l'IETF sont ceux qui ont participé depuis longtemps et qui ont montré leurs connaissances techniques, leur capacité pour résoudre des problèmes, leur capacité pour apporter une perspective et pour trouver l'équilibre adéquat. Et donc, par exemple, ce que les vendeurs font et disent est très important au sein de l'IETF. Et ce qu'une personne dit à un vendeur, c'est son vote, mais d'autre part, on sait que le vendeur qui a une grande portion du marché, par exemple, une grande participation dans le marché, on sait qu'ils vont mettre en place quelque chose et disent on a besoin de transmettre ceci à nos consommateurs. Peut-être c'est plus important que d'atteindre même le reste de l'IETF. Et parfois, ils nous disent que c'est important pour eux et qu'ils ont besoin d'avoir un standard pour ceci. Et ceci est très important parce qu'en fait, la question est comment améliorer l'Internet. Et donc, ceci veut dire que si on développe un système, on veut savoir si les gens vont s'en servir de ce standard. Et pour le savoir, en fait, on a besoin d'avoir des gens qui vont nous dire, bon, oui, c'est utile pour moi, j'ai besoin de ceci parce que je vois qu'il y a une fracture en ce moment. On a des besoins. Et donc, c'est notre travail, notre tâche de détecter ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas. Et en fait, l'un des exemples classiques est celui de Donny Huiz. C'est un exemple classique. Et l'IETF a passé beaucoup de temps à développer une solution qui remplacera le Huiz. Mais ceci n'importe à personne. On l'a pas mis en place parce que les personnes ne le voulaient pas. Et donc, en fait, l'effort complet a été une perte de temps en termes du but final d'améliorer l'Internet parce que personne ne s'en sert aujourd'hui ou alors il n'a pas été mis en place. Oui, Marcelo, tu vas poser la dernière question. Je suis Marcelo Teles pour le procès verbal. Bonjour, Thomas. Lorsque vous avez décrit la communauté technique, vous avez parlé de fournisseurs, d'opérateurs et des techniciens. Qu'est-ce qui se passe avec l'académie? Quelle est la participation des universités? Est-ce qu'elles participent? Et si elles ne participent pas, pourquoi pas? Alors, ce que l'UETF voit est qu'en fait, ils ont reçu la participation de tout le monde. Et la participation varie, elle n'est pas tellement haute. Mais en fait, on a deux sortes de problèmes. D'un côté, nous avons, je pense qu'il est critique d'avoir des participants académiques parce qu'ils sont des chercheurs, des investigateurs. Et donc, le défi ici est de voir quel est le centre d'attention des académiciens et pourquoi ils voudraient travailler au sein de l'IETF. S'ils ne sont pas intéressés, ils ne le font pas. Et en termes, ce que je dis, c'est que pour réussir au sein de l'IETF, ceci se passe en moins de 2 ans depuis le jour où on rejoint l'UETF. C'est beaucoup plus lent en tant que processus pour réussir au sein de l'ICANN. Donc, en fait, l'UETF travaille sur la mise en place rapide parce qu'on travaille avec des volontaires, mais on peut pas leur faire travailler plus rapidement que ceux qui travaillent dans leur propre projet. C'est ça le problème de l'ICANN. En général, les académiciens ont une approche trop radicale. Ils comprennent pas comment l'IDN fonctionne vraiment. Ils comprennent pas vraiment les contraintes. Ils savent pas comment faire des modifications. Et donc, ils peuvent faire des propositions. Ils peuvent parler à des fournisseurs de services Internet. Ils vont dire non, ceci sera inutile. Ceci n'est pas compatible avec notre façon de travailler aujourd'hui. Et le modèle commercial est une réalité. Donc, en fait, on a la participation de certaines universités qui ont participé depuis longtemps et qui ont travaillé beaucoup et qui se centrent beaucoup sur Internet. Ils prennent des mesures, ils font des paramétrages et ils donnent beaucoup d'opinions sur ce qui se passe. Ils ont une énorme perspective à ce sujet. Ils savent ce qu'on devrait faire. Pour vous donner l'exemple, les protocoles Rowdy qui fonctionnent avec le PGP et d'autres connexions, parfois on ne les comprend pas très bien. On ne comprend pas très bien les dynamiques de ce protocole Rowdy. On a quelqu'un qui développe des standards, qui a pris des mesures, il a fait des paramétrages, il est venu nous voir, il nous a dit, bon, c'est ça que je constate. Et je ne sais pas pourquoi ceci est ainsi. Et personne d'autre ne savait pourquoi ceci fonctionnait comme cela. Et donc, c'était très utile parce qu'en fait, si on ne comprend pas la façon dont l'Internet fonctionne, on ne sait pas comment modifier les standards ou alors voir si les standards sont appropriés pour améliorer ou pas l'Internet. Parfait. Bon, merci beaucoup. On voudrait remercier Thomas. Merci beaucoup. Vous avez une question? Oui. Je pense que vous allez avoir une réunion à Paris, si j'ai pas mal compris. Qu'est-ce qui va participer là? Je suis Alfredo López, je viens de la Colombie. Je répète ma question. Je suis Alfredo López de la Colombie. Et si je n'ai pas mal compris, vous allez organiser une réunion à Paris, en France, prochainement. Je voudrais savoir qui va participer de cette conférence et quels seront les sujets que vous allez aborder. On a combien de temps? Je demande parce qu'en fait, les réunions de l'IETF sont aussi grandes que les réunions d'ICANN. Nous avons 2200 participants face à face lors des réunions. En termes de ce que l'on va faire, là, je pense qu'on a 60 groupes de travail différents. Et c'est 5 journées de travail, toute une semaine, et on aura des réunions simultanées, 6 groupes en même temps, et ils vont travailler pendant 4 heures en général, et donc ils ont des agendas très focalisés où leur but est de se servir de ces réunions pour résoudre des problèmes qu'ils ne peuvent pas résoudre à travers les emails. Donc, tout ce qui peut être fait offline ou à travers des mails n'est pas abordé. En fait, ils veulent faire des progrès là où il est nécessaire de résoudre des problèmes tels que d'atteindre le consensus qu'on ne peut pas faire à travers l'email ou par le chat. Ceci, en fait, montre qu'on travaille beaucoup à travers les réunions virtuelles. Donc, ce n'est pas nécessaire d'aller aux réunions en face à face. Mais on a des experts de ce domaine qui ne viennent même pas aux réunions de l'IETF. Vous pouvez participer quand même de façon virtuelle. Merci. Merci, Thomas. Alors, on conclut maintenant cette formation d'aujourd'hui. On vous remercie d'être venu.
Good afternoon, everyone. We'll start in 2 minutes.